Bonjour mes frères et sœurs. Vous savez, des moments où je pleure presque en lisant certains commentaires sur ma page Facebook de Révélation Bible, quand je vois l'ignorance des gens au sujet des Saintes Écritures. Et ça me fait mal au cœur et j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la Bible. Parce que pour réaliser véritablement une vie telle que Jésus veut que nous la réalisions, telle qu'il veut que nous la rendions réelle, il faut que notre foi repose entièrement sur ce que Dieu dit, de ce que nous trouvons dans la Bible. Alors je sais, il y a des chrétiens sincères qui pensent que la tradition rajouté à la Bible depuis près de deux millénaires et quelque chose de sacré. Je vous respecte, je vous aime de tout mon cœur, mais je vois qu'il y a un grand manque de connaissance de la Bible, et ce qui fait que cela laisse des portes ouvertes à toutes sortes de choses qui sont vraiment contraires à ce que Dieu veut, à ce que Dieu attend de nous, et ce qui conduit le plus grand nombre dans des ténèbres d'ignorance, dans une vie médiocre, et je trouve ça tellement dommage. C'est pourquoi je voudrais vous parler de la Bible aujourd'hui. Jésus, je te prie de tout mon cœur pour que ce que je vais dire puisse toucher chacun, chacune de ceux qui vont écouter ce message, qu'ils prennent conscience de l'importance du livre que tu nous as donné. Merci Jésus. Amen. Je crois qu'il faudrait que chacun d'entre vous, vous puissiez lire chaque jour un passage de la Bible et laisser la Bible devenir le critère de votre vie. Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Mais Jésus dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est tout ce que tu as trouvé bon devant toi. On trouve ça dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Vraiment, mes frères et sœurs, la Bible est le livre le plus facile à comprendre. On l'appelle une révélation. Une chose révélée est une chose claire. Vous voyez, si vous lisez la Bible simplement, le Saint-Esprit ouvrira votre intelligence et vous allez la comprendre. Dans Apocalypse 1:3, il est dit « Heureux celui qui lit le livre et heureux celui qui écoute les paroles. » C'est d'autant plus facile de comprendre la Bible que chaque vérité est répétée plusieurs fois. La Bible dit que toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. On parle de ce principe très souvent dans la Bible. Ça se trouve dans Deutéronome 17:6, dans Deutéronome 19:15, dans Matthieu 18:16, dans 2 Corinthiens, enfin bon. Si une vérité n'est pas assez répétée pour être absolument claire, alors ça n'est pas une doctrine essentielle à votre salut. D'accord ? La Bible est simple parce qu'elle est écrite dans un langage clair et n'a pas besoin d'interprétation. L'autre jour, une dame m'écrivait « Mais la Bible a été modifiée il y a tellement de... Alors maintenant, il y a des traductions modernes et tout. » J'ai dit, mais c'est impossible de faire autrement. Et je lui ai envoyé une photo d'une page de la Bible datant du 15e siècle. Mais c'est illisible. Le français du 15e siècle est illisible pour nous. Il faut qu'il y ait des hommes, des femmes, des linguistes, des hommes, des femmes, des scientifiques de la langue qui ne trahissent pas les Écritures en les mettant en français courant. Il ne faut pas que vous disiez « la Bible a été modifiée parce que, voilà, moi j'ai lu telle version, il y a tel mot, puis dans cette autre version, il y a tel autre mot. » Je vous donne un simple exemple. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Et la garce devint enceinte ». La garce, c'est la Vierge Marie. Pourquoi est-ce que dans le français ancien, on disait une garce ? On disait une garce parce que la garce, c'était le féminin d'un gars. Un gars, c'est un jeune homme, et une garce, c'est une jeune fille. Et en français ancien, on disait « la garce devint enceinte, la jeune fille devint enceinte, la vierge devint enceinte ». Mais le vocabulaire évolue. Mais ça veut toujours dire la même chose. Vous voyez, ça veut toujours dire la même chose. La Bible dit ce qu'elle veut dire, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'interprétation. La Bible est un livre à accepter sur parole, c'est tout. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de votre aide, ou de mon aide, ou de l'aide des théologiens pour l'expliquer. Il sait très bien se faire comprendre. Dieu a dit ce qu'il voulait dire. Et ça a été écrit, et c'est dans la Bible. Acceptez-le. D'ordinaire, ceux qui disent que la Bible est difficile à comprendre, ce sont ceux qui ne veulent pas croire ce qu'elle dit. Rappelons-nous qu'elle a été écrite pour que les gens les plus incultes, les plus ignorants, puissent la comprendre. De sorte que ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. C'est écrit cela dans Ésaïe 35, verset 8. Paul dit à Timothée que il lui dit « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. » On trouve ça dans 2 Timothée 3,15. Mais depuis son enfance, il connaissait les Écritures. Un enfant peut connaître les Écritures. Les enfants de notre communauté connaissent les Écritures. À Jérusalem, les chefs religieux érudits qui ont arrêté Pierre et Jean à cause de la guérison miraculeuse d'un invalide, ils étaient abasourdis par le prodige absolument incontestable, mais on pouvait aussi attribuer, et c'était difficile pour eux d'attribuer cette guérison à ces deux hommes, parce qu'ils voyaient très bien que Pierre et Jean, ils se rendaient bien compte que c'était que des hommes simples et sans instruction. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans Actes chapitre 4, verset 13. C'était des gens sans instruction. Une autre raison pour que la Bible soit facile à comprendre, c'est que Dieu s'attend à ce que les gens l'entendent et la croient pour être sauvés. Et puisque le salut est pour celui qui veut, la Bible doit être simple, assez simple, pour que tout le monde puisse la comprendre. Quiconque croit l'évangile ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Mais si c'est compliqué, comment voulez-vous que les gens rentrent au paradis? Si c'est impossible à comprendre, les gens ne peuvent pas entrer au paradis, ils ne seront pas sauvés. Mais c'est facile à comprendre, Dieu a voulu que ce soit simple. Je pense que vous avez tous entendu parler de Abraham Lincoln. Il a dit: prenez tout ce que vous pouvez de la Bible par la raison, et le reste, prenez-le par la foi, et vous vivrez et mourrez une meilleure personne, en étant une meilleure personne. C'est le meilleur livre que Dieu ait donné à l'homme. Napoléon, un autre bonhomme, je pense que vous connaissez, il a dit: la Bible est plus qu'un livre, c'est un être vivant, avec une action, une puissance, qui envahit tout ce qui s'oppose à son expansion. Woodrow Wilson a dit: un homme s'est privé du meilleur de ce qu'il y a dans le monde quand il s'est privé de la Bible. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 800 savants britanniques qui ont signé une déclaration enregistrée à la bibliothèque de Bodleian d'Oxford qui affirme, donc ces 800 savants ont signé ça: Nous concevons comme impossible que se contredise la parole de Dieu écrite dans un livre de la nature et de la parole de Dieu écrite dans les Saintes Écritures. C'était des savants, et leur but, c'était quoi? Leur but, c'était d'exprimer un regret sincère que ceux qui cherchent la vérité scientifique se soient pervertis jusqu'à mettre en doute la vérité de l'authenticité des Écritures Saintes. Daniel Webster, c'était un homme d'État américain au XIXe siècle. Il a dit « La Bible est le livre de foi, et un livre de doctrine, et un livre de morale, et un livre de religion, d'une révélation spéciale de Dieu, mais c'est aussi un livre qui enseigne à l'homme sa responsabilité, sa propre dignité et son égalité avec son semblable. » Ceux qui ont écrit la Bible prétendent avoir été inspirés par Dieu. Et il l'était, moi je le crois, il l'était. En effet, parce que alors, ou alors c'était des menteurs, je ne sais pas, enfin. Maintenant, il est difficile de concevoir que plus de 40 auteurs auraient la même idée de mentir sur le même sujet. Et ces 40 auteurs, ces 40 personnes, ont écrit 66 livres en plus de 1600 ans sur le thème central de la création, de la rédemption de l'être humain par Jésus-Christ. C'est des gens qui ne se connaissaient pas pour la plupart. Ils n'avaient jamais mis été en contact les uns avec les autres, sauf les apôtres. Mais c'est illogique. Il est illogique, représentant près de 20 siècles et des sociétés très diverses, qu'ils avaient tous inventé la même supercherie. C'est aussi absolument illogique de douter de la Bible simplement parce que le récit de la création du monde et de la résurrection de Jésus-Christ ne peuvent pas être vérifiés scientifiquement. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, ils se moquent, alors ils, oui, mais est-ce que vous étiez là quand Dieu a créé le monde ?» Ça montre une intelligence. Il y en a qui disent « Est-ce que vous étiez là quand Jésus-Christ est ressuscité des morts ?» Mais les mêmes questions s'appliquent à eux, à ces incroyants. Est-ce qu'ils étaient là lorsque leur fameux tourbillon évolutionnaire de l'univers s'est mis à bouger? Est-ce qu'ils étaient là quand les formes inférieures se sont dégagées de la matière pour se modifier, n'est-ce pas, par un enchaînement de phénomènes absolument mystérieux et pour se transformer, devenir petit à petit un être humain? Est-ce qu'ils étaient là pour prouver que c'était comme ça, puis qu'il n'y avait pas besoin de Dieu pour ça? Non. Ah, toutes les questions fondamentales quant à notre origine, notre existence, notre raison d'être et notre destin trouvent leur réponse dans la Bible écrite par 40 hommes qui, en plus de 1600 ans, ont écrit ces 66 livres qui forment ce que nous appelons la Bible. Si tous ont menti en se disant inspirés par Dieu, il semble extrêmement illogique de croire que tant d'hommes honorables et respectés de leur temps aient tous abouti au même mensonge. Non ? Pour moi, en tout cas, c'est absolument illogique de croire la Bible et d'avoir confiance dans les promesses de Dieu si ces hommes étaient des menteurs. Non, pour moi c'est logique de croire la Bible et d'avoir confiance dans les promesses écrites de Dieu par ces hommes-là qui ont écrit pendant sur cette durée de 1600 ans et qui venaient d'origines tellement différentes. Pensez-y, la Bible a été écrite sur deux continents, dans des pays séparés par des centaines de kilomètres, pendant plus de 16 siècles. Il y a une portion qui a été écrite en Syrie, une autre en Arabie, d'autres portions en Italie, en Grèce, dans le désert du Sinaï. Il y a une autre partie qui a été écrite au fin fond de la Judée, d'autres dans la caverne d'Adullam, d'autres dans des prisons romaines. Certaines parties viennent de l'île de Patmos ou des palais de la montagne de Sion et de Suse. Des portions ont été écrites près des fleuves de Babylone ou au bord de Kébar. La Bible, c'est un phénomène littéraire qui est unique au monde. Ceux qui l'ont écrite étaient des vachers, des bergers, des pêcheurs, des hommes politiques, des princes, des poètes, des philosophes, des hommes d'État, des prophètes, des prêtres, des publicains, des médecins. Toutes les constructions littéraires y sont représentées. On y trouve histoire, poésie, prose, prophétie, lettres, proverbes, paraboles, allégories, discours. Et pourtant, il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de discordance. Son unité et sa cohésion sont un des plus grands miracles de l'histoire, mes frères et sœurs. Une harmonie parfaite existe entre de la Genèse à l'Apocalypse. Le tout est en parfait accord parce que ça a été inspiré par un seul maître créateur, notre Père Céleste. La Bible constitue une unité où chaque section est entrelacée avec les autres sections, bien que les auteurs aient vécu à des époques qui embrassent presque 2 millénaires. Est-ce que vous pouvez imaginer l'imbroglio qui résulterait dans un tome comme la Bible de 66 clercs, juges, politiciens, dirigeants, pêcheurs, ecclésiastiques, vachers, médecins, ouvriers, gilets jaunes et toutes sortes de gens pendant 16 siècles, si ça avait été écrit? Mon Dieu! Par tous ces gens-là, ça pourrait être qu'un assemblage confus et complètement hétérogène. Prenez un exemple, la médecine. Est-ce que vous pouvez imaginer les enseignements contradictoires de tant de siècles? Les médecins du XIIIe siècle ou les médecins d'aujourd'hui, voilà, on les mettait ensemble, ils écrivent. Il y a des contradictions terribles dans ce qu'ils disent tous ces médecins. Enfin, bon. Pourtant, la Bible, qui traite du sujet couvrant toute la gamme des intérêts humains, c'est un seul livre, sans incohérence, contenant un seul système de doctrine, un seul plan de salut, une seule éthique, une seule règle de foi, une seule histoire d'amour et de rédemption de la malédiction et du péché. La Bible n'est jamais venue par la volonté d'un homme, mes frères et sœurs, jamais. Mais elle est venue de saints hommes de Dieu qui ont parlé, qui ont écrit, étant poussés par le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1:21. C'est là le secret. C'est ça le secret de la Bible, du miracle littéraire que nous appelons la Bible. Et voilà pourquoi toutes les parties de la Bible forment un tout homogène. Et voilà pourquoi, tout le temps, je vous répète, lisez la Bible. Les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse ne se réalisent que dans le sermon sur la montagne, 1500 ans plus tard. Les prophéties d'Ésaïe, écrites 700 ans avant Jésus-Christ, s'accomplissent dans les 4 évangiles. Le livre de Daniel, écrit au sujet d'événements de 535 à 605 avant Jésus-Christ, et l'Apocalypse, écrite en 96 de notre ère, s'accorde avec une parfaite précision. Le Lévitique, le livre du Lévitique qu'on trouve dans la Bible, date de 1491 avant Jésus-Christ et il illustre l'épître aux Hébreux écrite 1555 ans plus tard, en 64 après Jésus-Christ. Et ce livre aux Hébreux, à son tour, ne peut être compris que par rapport au livre du Lévitique. Mais les gens ne savent pas, puis la Bible. Il faut arrêter d'être stupide. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, ce qui signifie révélation et non pas catastrophe. Le dernier livre de la Bible, c'est comme un dôme resplendissant à la splendeur du jour pour couronner toute l'unité. Et mystérieusement, il s'entrelace à nouveau avec les tout premiers chapitres de la Bible dans la Genèse. Qu'est-ce que vous dites de ça? L'histoire de Jésus-Christ se révèle graduellement à travers toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, sa venue est préparée, annoncée. Dans les quatre évangiles, le Christ est manifesté. Dans les actes des apôtres, son évangile, sa bonne nouvelle est propagée. Dans les épîtres des apôtres, son message est amplifié. Et dans l'Apocalypse, voilà, la gloire de son retour est révélée. Il y avait un évangéliste américain qui s'appelait Billy Sunday. Il a rendu à la Bible un hommage merveilleux et très éloquent. Je vais vous le lire. Voilà ce qu'il écrit. « Le Saint-Esprit pour guide, je suis entré au portique de la Genèse. » J'ai suivi le couloir des galeries de l'Ancien Testament où figurent les portraits de Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Isaac, Jacob et Daniel. Je suis passé par le studio musical des psaumes où l'esprit fait retentir le clavier de la nature à tel point que chaque tuyau et hanche du grand orgue de Dieu semble répondre à la harpe de David, doux chantre d'Israël. Je suis entré dans la chambre de l'Ecclésiaste, où l'on entend la voix du prédicateur, et dans le conservatoire de Sharon, et du lys des vallées, où les aromates ont rempli et parfumé ma vie. Je suis entré dans le bureau des proverbes, puis dans l'observatoire des prophètes, où j'ai vu des télescopes de plusieurs tailles tournés vers les événements lointains, se concentrant sur l'étoile brillante du matin qui devait s'élever au-dessus des collines éclairées par la lune de Judée pour notre salut et notre rédemption. Je suis entré dans la salle d'audience du roi des rois, saisissant une vision décrite par Matthieu, Marc, Luc et Jean. De là, dans la salle de correspondance où Paul, Pierre, Jacques et Jean écrivaient leurs épîtres. J'ai mis les pieds dans la salle du trône de l'Apocalypse, devant les monts étincelants où le roi des rois siège sur les trônes de sa gloire avec dans sa main la guérison des nations, et je me suis écrié « Jésus, ton nom est tout-puissant. Ange, prosternez-vous, il est roi, couronnez-le donc, Seigneur, par-dessus tout. » Je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Au revoir.